Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'association de la cause freudienne Aquitania est ravie d'accueillir notre amie et collègue Nathalie Jodel. Nous remercions la librairie Mola pour donner écho à cet ouvrage dont la presse française, il y a quelques mois, a manifesté un certain effort pour ne pas en parler. Je crois qu'on peut le dire. Donc, merci à la librairie Mola d'inviter, donc, nous permettre d'avoir invité Nathalie Jodel, qui est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et qui a comme singularité, une de ses singularités, d'avoir été avocate. Donc, examiner les faits, ne pas céder sur l'examen de la vérité, elle s'y connaît. Alors, nous préparions il y a 2 mois, cet après-midi, dans un restaurant de Manhattan, celui de Robert De Niro. Sauf que depuis 72 heures, le réel a frappé à la porte. Et on peut même dire qu'il l'a fait voler en éclats. Et Nathalie Jodel a décidé de nous parler aussi de ceci, sous une forme très particulière, en plus de son ouvrage « La légende noire » de Jacques Lacan. Alors, sur cet événement, il me faut quand même vous faire part d'un communiqué qu'a fait la présidente de l'école de la cause freudienne, Patricia Bosquin-Carroz, qui a été rendue publique il y a 24 heures ou 48, que je vous lis. Je donc la cite. « Le conseil, mais aussi les membres de l'école de la cause freudienne, sont sous le choc de la nouvelle de l'attentat perpétré hier à Paris contre l'équipe de rédaction de Charlie Hebdo, dont on sait que certains de ces journalistes étaient des amis de la psychanalyse. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage et adressons nos condoléances à leur famille endeuillée. À cette occasion, le Conseil réaffirme sa position en faveur des valeurs démocratiques défendu par l'état de droit, dont dépend l'exercice de la psychanalyse, et soutient résolument la liberté de parole qui en est une des conditions. Voilà. Alors, nous serons comme citoyens et aussi comme analystes demain à la manifestation. Alors, je vais donner la parole à Nathalie Jodel. Et nous allons l'entendre, et ensuite nous pourrons discuter. La première réplique sera donnée à Carole de Vambrechy-Lassagna, qu'on ne présente plus à Bordeaux, si ce n'est pour redire qu'elle est psychiatre, psychanalyste, membre aussi de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, et qu'elle est là aussi au titre du fait qu'elle est présidente des éditions du Champ freudien. Puisque cet ouvrage est paru donc dans une coédition Navarin Éditeur, édition du Champ freudien. Donc elle a été aussi une des premières personnes à accueillir ce manuscrit. Voilà, un manuscrit qui est né, je crois, d'un choc. La pensée naît souvent d'un choc, radiophonique, en 2009, d'un entretien entre Raphaël Antoven et Elisabeth Roudinesco. Bref, Nathalie Jodel, je vous donne la parole.
Merci Rodolphe. Eh bien, merci à la CF Aquitania et à la librairie Mola de m'avoir invité à parler de ce livre. Alors effectivement, l'actualité la plus récente avec l'attentat horrible qui s'est déroulé mercredi dans les locaux de Charlie Hebdo pourrait laisser penser qu'il est un petit peu dérisoire de venir aujourd'hui devant vous parler de la légende noire de Jacques Lacan. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est du combat des Lumières qu'il s'agit. Au fond, un des grands enseignements que nous pouvons tirer de la lecture de Jacques Lacan, et en particulier de son écrit « Kant avec Sade », c'est que les Lumières, ça ne tient pas tout seul. Et au fond, on a aujourd'hui deux versions possibles de ce qui peut aider à faire tenir les Lumières et à ne pas faire en sorte que ce soit la jouissance la plus bête qui soit à l'œuvre dans notre civilisation. La première version, c'est celle de Michel Houellebecq. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview qu'il a donnée ces jours-ci au Nouvel Observateur, où il explique bien qu'il a l'idée que l'espèce de parenthèse magique et enchantée que le monde occidental a connue dans les années 70, dans les années post-68, où finalement la liberté de parole, la liberté d'irrévérence, la liberté de blasphémer était à leur comble. Et je pensais d'ailleurs à ce propos qu'aujourd'hui, par exemple, un dessinateur comme Reiser, avec lequel moi j'ai été élevée en quelque sorte, ferait l'objet de procès incessants. Et il ne pourrait plus tenir les discours qu'il tenait, écrire, faire les dessins qu'il faisait à l'époque. Donc, ce que nous dit Houellebecq, c'est la seule chose qui puisse... cette parenthèse est en train de se refermer, et elle se referme avec la religion. C'est le retour en force du fait religieux, du nom du Père, qui va faire que notre monde va changer. Et ce que nous dit Lacan, c'est que ce qui peut faire échec à la jouissance la plus bête, c'est la psychanalyse. Or, finalement, ce que nous propose Elisabeth Roudinesco, au prétexte apparent de défendre la psychanalyse, c'est la psychanalyse la plus bête. Donc on aurait le choix, pour contrer la jouissance la plus bête, de la religion la plus bête ou de la psychanalyse la plus bête. Et c'est bien pour ça qu'il me semble urgent de venir dire aujourd'hui qu'un autre discours sur la psychanalyse est possible. Et que il me semble, enfin, j'espère en tout cas, que le livre « La légende noire » de Jacques Lacan s'inscrit dans ce combat-là. Je prendrai tout à l'heure quelques exemples tirés du Freud de Roudinesco pour vous montrer ce que j'entends par ce que je viens de dire. Mais il suffit par exemple d'évoquer le fait qu'elle considère que la métapsychologie freudienne est confuse et mal fagotée, que L'avenir d'une illusion est un mauvais livre, j'en passe et d'autres, et puis une espèce de logique moralisante, évaluatrice, Freud avait tort, il avait encore tort, encore une fois il se trompait, exactement la même chose que ce qu'elle faisait avec Lacan. La psychanalyse peut aussi nous aider, je crois, à essayer de penser ce qui est en train d'arriver. À propos, par exemple, de cette espèce de slogan qui a fait fureur sur les réseaux sociaux ces jours-ci, qui est « Je suis Charlie ». Je dois dire que j'ai éprouvé un très grand soulagement quand est arrivée hier dans ma boîte mail la lettre hebdomadaire de l'école de la cause freudienne et que j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit macaron noir et blanc en tête de cette lettre, mais qui ne disait pas « Je suis Charlie », mais « Charlie ». Parce que, au fond, à quoi aboutit ce « Je suis Charlie » ? Ce « Je suis Charlie » aboutit non seulement à nier l'existence de l'énonciation, puisque, évidemment, moi, je ne suis pas Charlie, Elle aboutit aussi à oublier ce qui, par exemple, a été mon cas, que je reçois la newsletter de Charlie Hebdo depuis très longtemps, que je la lis toutes les semaines, que je me marre en lisant leur couverture, que mardi dernier, la caricature de Charb qui disait « Allah a fait Welbeck à son image » m'a fait rire et je me suis dit « Mais dites donc, quel culot ils ont !» Mais que Charlie Hebdo, dans cette newsletter, depuis des semaines, écrivait qu'ils étaient en danger financier, qu'ils étaient sur le point de disparaître et que j'ai traité ça un peu à la légère et je n'ai pas envoyé mon soutien financier. Et que du coup, ça me paraît aujourd'hui extrêmement malvenu, comme je l'ai écrit dans un article qui va paraître bientôt, de venir dire « je suis Charlie ». Mais surtout, à quoi ça aboutit ce « je suis Charlie » ? Ça aboutit à une espèce de pente à l'imaginaire qui fait qu'aujourd'hui, si nous tous disons « je suis Charlie », eh bien, nos adversaires disent, et le hashtag fait florès sur Twitter, « je suis Kouachi ». Et qu'en prenant les choses de ce côté-là, on va aboutir à des catastrophes. Et que je pense que le discours psychanalytique peut nous aider à penser cette situation un peu autrement que dans l'espèce d'unanimisme un peu inquiétant, pour moi en tout cas, qui se manifeste ces jours-ci, même si je soutiens avec vigueur et je revendique le droit au blasphème. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que ce projet et comment est-ce qu'il est né ? En 2009, Elisabeth Roudinesco a fait reparaître en un seul volume son histoire de la psychanalyse en France et sa biographie de Jacques Lacan. Elle a été invitée par Raphaël Endoven à venir parler de cet ouvrage à la radio. Et moi, j'avais envie d'écouter cette émission. Parce que je n'avais pas lu la biographie de Lacan, que j'avais l'idée que Roudinesco le connaissait, qu'elle était une amie de la psychanalyse, et que tout ça allait être fort intéressant. Et je dois dire que je suis tombée de ma chaise, parce que ce que j'ai entendu ce jour-là, c'était des choses comme de Lacan ou de Dali, le plus fou des deux n'est pas celui qu'on croit, ou alors si Lacan faisait des séances courtes, bon certes ce n'était pas seulement parce qu'il aimait l'argent, mais c'était quand même aussi parce qu'il aimait l'argent, et donc je me suis dit que c'était un petit peu surprenant de la part d'une amie de la psychanalyse qui se prétendait aussi amie de Lacan, et d'une historienne qui plus est, et du coup j'ai écrit un article, presque un verbatim de l'émission, en m'étonnant qu'elle ait pu tenir ses propos, et cet article lui a été envoyé en lui demandant si elle souhaitait faire des commentaires, et non seulement elle n'a pas souhaité faire des commentaires, mais bon, elle a répondu avec des propos assez vigoureux à mon endroit. Et à la suite de ça, je me suis dit que bon, le temps était venu d'aller y voir de plus près et de lire cette biographie de Lacan. Moi, je m'en fichais un peu, je dois dire, de la biographie de Lacan. La vie de Lacan, enfin, voilà, ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, quand on essaie de lire Lacan, c'est difficile, c'est exigeant. Et puis, je veux dire, la vie de Freud ne m'intéressait pas plus non plus. Je veux dire, j'essayais de lire leur texte. Et en fait, dès l'entrée, dès le prologue de son bouquin sur l'histoire de la famille de Lacan, qui étaient des vinaigriers d'Orléans, les premiers mots qui arrivent, c'est « légende noire, excrément, escroquerie ». Et là, je me suis dit « oh là là, ça, c'est quand même un peu étrange ». Et en poursuivant, eh bien, je me suis aperçue aussi que Elle interrogeait tout un tas de gens qui avaient connu Lacan de plus ou moins près, ou dont les parents avaient connu Lacan, ou dont l'oncle avait connu Lacan, ou dont quelqu'un leur avait dit que quelqu'un qui avait connu Lacan lui avait dit que, etc., etc. Mais que chaque fois, les rares fois où elle citait Jacques Lacan, c'était pour dire « Ah, il se trompe. Ah non, mais là, non, 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 c'est vraiment preuve d'un manque de lucidité sur lui-même. » Ou « Oh oui, ça prouve vraiment la fragilité du témoignage humain. » Et si on ajoute à ça l'envahissement de son texte par une espèce d'énonciation malveillante, j'emploie le terme bien pesé, et que, comble du comble pour ce qui me concerne, le psychanalyste avait disparu, c'est-à-dire que sa pratique n'existait pas, qu'elle ne s'y intéressait que pour montrer qu'il aimait l'argent, que pour montrer qu'il était transgressif, pour montrer qu'il aurait tiré les cheveux à telle patiente, etc., etc., eh bien, j'ai décidé de me lancer dans ce travail. Et je me suis lancée dans ce travail à partir d'une recherche théorique qui a été la première que j'ai entreprise et qui m'a pris plusieurs mois, qui était un travail sur la méthode historique. Je me suis dit que c'était par ça qu'il fallait commencer. Qu'est-ce que ça voulait dire écrire de l'histoire? Qu'est-ce que ça voulait dire se prétendre, s'affirmer historienne? Qu'est-ce que ça impliquait du point de vue de la méthode? Et est-ce que les méthodes qu'employait l'historienne, en l'occurrence, celle qui se dit historienne en quatrième de couverture, etc., est-ce que ces méthodes étaient conformes à celles que les historiens emploient d'ordinaire pour écrire des livres d'histoire ou des biographies? Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un vrai problème qui était que on ne pouvait pas, et ça c'est unanime, et Jacques Derrida l'avait pointé à Elisabeth Roudinesco, on ne pouvait pas être l'historien de sa propre histoire. Et qu'à partir du moment où, déjà l'histoire contemporaine c'est très compliqué parce que c'est une histoire qui repose sur le témoignage, alors que la science historique s'est construite à la fin du 19e et au début du 20e siècle sur l'abandon du témoignage comme preuve en histoire, que c'était une histoire qui reposait sur le témoignage, sur la preuve orale, et que, au fond, elle construisait une espèce de Lacan imaginaire qui correspondait à l'image qu'elle avait de lui, et elle plaquait une espèce de fantasme, en quelque sorte, au travers duquel elle lisait l'ensemble de sa vie et de son œuvre, qui était qu'il était un espèce de génie méconnu, désespéré de l'absence de reconnaissance dont il faisait l'objet, prêt à tout pour obtenir la gloire, et qui aurait, à partir du milieu des années 60, sombré dans la folie. Voilà. Et je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Je fais partie de ceux qui, dans le monde entier aujourd'hui, avec l'Association mondiale de psychanalyse, mais il y a d'autres groupes aussi qui s'intéressent à ces questions-là, considèrent que ce que Lacan a apporté de plus important, c'est après les années 60, après le milieu des années 60, que ça se passe. Et que ce qu'elle appelle délire, c'est ce qu'il a apporté de plus précieux, et que c'est ça notre boussole, et ce qu'il a apporté avant est très 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 important, mais ce qui permet de lire la clinique d'aujourd'hui et la civilisation d'aujourd'hui, c'est l'enseignement d'après 1965. Voilà, donc au fond, ça a été le premier mouvement, et le deuxième, ça a été de repartir de ce que Lacan disait de lui-même dans son séminaire, les moments où il disait « moi », les moments où il disait « je », et d'essayer de dresser de lui, à partir de ça, un portrait qui soit au plus près de son énonciation. Et qui ne soit pas hagiographique, mais qui ne sombre pas dans la caricature. Voilà. Je ne sais pas si... enfin, voilà pour l'instant ce que je pouvais vous dire.
Bah, écoutez, ça commence très bien. Moi, j'ai été très, très contente d'avoir ce livre entre les mains. Je l'ai eu, je ne sais plus à quel moment vous l'avez proposé aux éditions sous une forme qui était rédigée de façon quasi définitive. Moi, j'ai eu les épreuves d'édition envoyées par Ève. Ça devait être fin 2013.
Écoutez, je c'était l'ai remis. C'était... oui, c'est ça. C'était Ève a dû l'avoir au milieu de l'année 2013.
Et donc, je ne savais pas de quoi vous parliez dans ce texte. On n'avait pas eu l'occasion d'en parler toutes les deux.
C'est vrai.
Et donc, je le reçois, je commence à le lire. Et vraiment, écoutez, un plaisir. Je crois que c'est une des lectures, une de mes lectures qui m'a fait le plus plaisir. Je suis très sincère parce que vraiment... D'abord, je ne savais pas que ça allait venir à ce moment-là. C'est quelque chose dont je peux dire que je l'ai sans doute attendu. C'est en même temps, quand je l'ai eu entre les mains, que j'ai su que je l'avais attendu, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et je l'ai lu comme un roman policier.
Oui, vous m'avez
dit. Et j'ai
dit
à Ève, mais c'est un roman policier, on ne peut pas le lâcher. Et Ève m'a envoyé l'exemplaire final qui est là, en me disant, chère Carole, voici le roman policier édité. Donc, c'est vraiment resté quelque chose qui, pour moi... C'est-à-dire, vous vous livrez à une enquête qui vous permet en même temps d'éviter une certaine difficulté par rapport à ce texte qui pourrait être la colère, qui pourrait être enfin, un certain nombre d'affects, qui pourrait saisir le lecteur, évidemment passionné, ce qui ne va pas, évidemment... non mesuré comme Elisabeth Rodinesco peut le reprocher, comme évidemment suspect de transfert à Lacan, ce qui rend toute lecture objective impossible et tout travail impossible, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, vous arrivez à trouver un biais par lequel vous prenez ça. Alors, il m'a semblé, là, vous venez d'en dire un mot, en parlant de la méthode historique que vous avez repris mot à mot, vous arrivez à prendre, il me semble, l'axe d'abord de, finalement, démontrer comment tout ça est imaginaire. Mm-hmm. Et à partir de ça, essayer de reprendre finalement la balayette dont se sert lui-même Lacan, entre imaginaire et symbolique, pour dire ça a l'air symbolique, parce qu'il y a des choses vraies. Il y a des dates qui sont vraies, par exemple. On vous précise que Lacan a commencé la conférence... Je n'ai pas l'exemple sous les yeux, mais par exemple à 14h05. C'est sans doute vrai. Et donc on en profite pour vous glisser un truc à côté qui est complètement loufoque. Par exemple, qu'il était très contrarié parce que je ne sais pas quoi. Ce que personne n'atteste, ce que Lacan n'a jamais écrit, ce que personne n'a écrit, ce qu'il n'a dit à personne, et ce qui est une façon de combler les trous de la signification, parce que c'est quelqu'un qui est amoureux de la signification, si on peut dire ça, et donc qui produit une quantité de signification phénoménale, souvent péjorative,
oui, très,
souvent très péjorative, passionnelle, pour le coup, bien qu'en le niant, et en récusant finalement une œuvre et un homme, un personnage, tel construit pour le faire tomber. Parce que personne n'avait construit ce personnage avant elle, enfin personne, en tout cas pas grand monde, et elle lui donne une consistance extraordinaire. Ça commence ça après la mort de Lacan. Enfin, en tout cas, moi, j'ai commencé à lire l'histoire de la psychanalyse, le premier volume, l'histoire de la psychanalyse en France, c'est 82, le deuxième de 86, le Jacques Lacan de 93. Donc Lacan meurt en septembre 81, en 82, on voit arriver ça et il commence déjà à y avoir des petits problèmes quand même, que vous relevez. Ben, vous n'avez pas tout relevé, d'ailleurs j'espère que vous allez poursuivre ce travail, parce qu'elle est la seule à savoir faire ça. Et évidemment, moi j'ai commencé mon enquête, je suis là, on a déjà tout un... Mais ça donne évidemment envie, ligne à ligne, de reprendre tous ces volumes et de dire, écoutez, non, c'est pas ça, non, c'est pas comme ça que ça a été écrit, non, c'est pas... Alors, il y a tout le début de votre volume sur en quoi l'histoire n'est pas la mémoire, qui est quelque chose qui est, que vous théorisez d'une façon. Alors, vous avez également un talent, outre celui de l'écriture, qui est de parler de choses complexes simplement. C'est-à-dire, on vous lit facilement alors que vous parlez de choses extrêmement complexes. Si vous avez essayé de lire des articles sur comment se fait l'histoire, c'est souvent difficile à lire. Hein, ce sont souvent des choses très techniques, très... Et je ne sais pas comment vous avez fait pour débrouiller toutes ces lectures, parce que vos références sont gigantesques en nombre. Alors, vous donnez les citations, vous donnez les pages, c'est-à-dire, vous répondez aussi à ce niveau-là, vous répondez « ma méthode, sa méthode ». Et ma méthode, c'est les citations, j'ouvre les guillemets, je donne la citation, je ferme les guillemets, je donne le numéro de la page, je donne le titre de volume, et tout le monde peut s'y reporter. Et vérifier que je me trompe, que je ne me trompe pas, dans quel contexte ces choses-là ont été dites, n'ont pas été dites. Enfin, c'est-à-dire, vous faites en un sens, ce n'est pas votre but, mais en un sens, vous montrez aussi un petit peu qu'est-ce que c'est que quelque chose d'historique, ou en tout cas, de ce point de vue d'universitaire, sérieux. Parce que, après tout, on pourrait dire, elle a fait un travail universitaire, pourquoi pas ? Même si ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, pourquoi pas ? Mais sauf qu'en tant que travail universitaire, ce n'est pas sérieux. C'est ce que vous montrez. C'est pas sérieux, c'est orienté, c'est tendancieux. Et ça a un but. Et ça a un but qui est implicite. C'est-à-dire qu'il n'est à aucun moment... Elisabeth Rodinesco ne nous dit « Je construis le génie Lacan pour mieux le mettre par terre. » C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Et puis c'est un clown. Et vous avez comme ça le balancement et cette espèce de suspicion... qui est très... Ça, moi, ce qui m'a le plus frappé aux premières lectures, c'est la suspicion jetée sur l'œuvre et sur le personnage. Il y a une façon de faire qui est très, très singulière, qui est d'arriver à coller une espèce de suspicion après son objet. Quand elle parle de quelque chose, eh bien, ça devient un objet. Vous disiez que pour Freud, je ne me suis pas encore lancée dans le Freud, il va falloir le faire... Vous disiez, dans Freud, on allait trouver un petit peu la même chose, c'est-à-dire on dit ce qui est bien, on dit ce qui n'est pas bien. Alors, il y a aussi cette position extraordinaire de non-dupe. C'est-à-dire, moi, je suis au-dessus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à sa méthode historique, moi, je suis au-dessus des contingences, moi, je peux dire quel est le texte qui est bien, quel est celui qui n'est pas bien, alors que je parle de gens dont je ne comprends quand même pas, en très grande partie, ce dont ils parlent. Et alors ça, c'est l'autre aspect de votre texte que j'ai trouvé extraordinaire, qui est que vous l'expliquez. Vous reprenez, alors là, je voudrais vous demander comment vous avez fait votre table des matières, parce qu'il fallait choisir dans tout ça. Parce que là, on a quand même 30 ans de choses écrites. Je limite à 82 jusqu'à nos jours. Mais... Et comment vous reprenez un à un un certain nombre de choses théoriques, alors que vous avez choisi vous, mais que développe Elisabeth Rodinesco avec des contresens majeurs, majeurs. Par exemple, que Lacan, dans le chapitre que vous intitulez « Vie philosophique », comment vous essayez d'expliquer à Elisabeth Rodinesco, et à votre lecteur ensuite, mais à Elisabeth Rodinesco d'abord, parce que c'est une interlocution avec Elisabeth Rodinesco, votre livre. Donc, vous êtes très, très aimable.
Oui.
Bah, oui, vous êtes très aimable. Et vous lui expliquez en quoi, pour Lacan, la psychanalyse n'est pas une sagesse. En quoi Lacan n'essaie pas de mettre en adéquation sa vie et sa théorie analytique. En quoi la théorie analytique de Lacan n'est pas un système. En quoi, enfin, et vous développez comme ça tout un ensemble de considérations absolument fondamentales pour le lecteur de Lacan, pour tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse. Et un des grands reproches qu'on pourrait faire à Rodinesco, si on voulait lui faire des reproches, c'est que c'est effectivement la psychanalyse aussi qu'elle fait, le sens de la psychanalyse aussi qu'elle fait oublier avec tout ça.
Ah,
ça
n'est
pas simplement. Ça n'est pas simplement. Ça n'aurait pas été simple si c'était simplement Lacan. Après tout, il n'y a pas de raison de mettre par terre. Mais ça va très loin. Et c'est pour ça que ça a un écho avec l'époque contemporaine dans ces derniers développements actuels, ce par quoi vous commenciez, c'est que c'est la psychanalyse elle-même qu'on ne comprend plus. On ne comprend plus le sens de la psychanalyse quand on a soulevé tout ce, n'ose pas dire ce bourbier, mais enfin, toutes ces choses quand même. Si, ce bourbier, plutôt quand vous parlez du vinaigre, des excréments, de tout ça, on est bien dans quelque chose qui est complètement ahurissant et qui...
Et quand on est un psychanalyste et qu'on étudie quelqu'un, qu'on ne commence pas par qu'est-ce qu'il dit de lui-même, c'est quand même extraordinaire. Et comme historien et comme analyste. C'est ça que tu montres. Son propre témoignage est fourclos. Ça ne l'intéresse pas.
Bah non, elle sait mieux que lui.
Il est invalide et puis elle sait mieux que lui. Elle sait mieux que lui.
Oui, absolument.
Je veux dire, elle fait pareil dans le Freud.
Allez, Freud.
Allons-y. Allons-y, vous allez voir. C'est fascinant. Alors, je vais prendre un des exemples, je dois dire, où j'ai vraiment écrit « Oh !» point d'exclamation dans la marge. Voilà. Au fond, il parle donc de Marie Bonaparte. Elle parle de Marie Bonaparte et elle dit que la cure de Marie Bonaparte a été une des plus réussies de Freud.
Alors ça, c'est extraordinaire. Madame Rodinesco juge que la cure de Marie Bonaparte,
tout à fait,
ce qu'on peut contrôler dès
oui,
demain,
oui, tout à fait,
a été extrêmement bien réussie.
Une des plus grandes réussites. Tout à fait. Alors, elle ajoute la chose suivante. Bon, certes, alors, il y a eu quand même un petit échec, c'est-à-dire qu'il lui a imposé certaines limites à ses expériences chirurgicales.
Certes, c'est vrai.
Sans parvenir toutefois à l'empêcher de passer à l'acte. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient ici que Marie Bonaparte s'est fait opérer plusieurs fois pour tenter de faire rapprocher son clitoris de l'entrée de son vagin. Et elle ajoute...
Pour des questions
comme
de jouissance sexuelle.
Freud subissait lui-même de douloureuses interventions,
c'est extraordinaire.
Il n'avait guère les moyens, dans une telle situation transférentielle, d'interpréter la jouissance éprouvée par Marie à manier le bistouri.
En plus, c'était le cancer de la mâchoire.
Voilà. Alors que,
c'est là qu'on voit ce que vous disiez tout à l'heure du glissement métonymique et de l'évocation péjorative. Ça évoque constamment des rapprochements de ce type par un procédé stylistique qui est la métonymie.
Tout à fait.
Elle ne dit pas ouvertement ce qu'on entend très bien là, mais en maniant la métonymie, en mettant côte à côte la chirurgie de l'un, la chirurgie de l'autre. Et l'empêchement transférentiel à interpréter, fondamental.
C'est pareil.
On arrive à une cure très réussie.
Voilà, on arrive à une cure très réussie. Autre exemple. En mai 1933, Goebbels fait brûler 20 000 livres juifs, parmi lesquels les livres de Freud. À ce moment-là, Freud aurait dit à Jones, Ernest Jones, un psychanalyste anglais, « Quel progrès nous faisons ? Au Moyen-Âge, il m'aurait brûlé. À présent, il se contente de brûler mes livres. » Elisabeth Rodinesco ajoute « Quelle phrase ! Freud aurait été mieux inspiré de dire que brûler les livres juifs conduirait à brûler non seulement les auteurs des livres, mais les juifs eux-mêmes et autres représentants des races dites inférieures. » Donc, elle lui reproche, en 1933, de n'avoir pas été capable de prévoir que l'autodafé organisé par les nazis allait aboutir à la solution finale. On peut lire aussi
choses qui ont été reprises par d'autres après Rodinesco.
Oui.
C'est-à-dire une ombre portée sur le rapport de Freud au nazisme.
Voilà, l'aveuglement. Hein,
l'aveuglement. Voire un peu plus, on a lu des choses comme ça. Hein.
Elle écrit aussi qu'à la veille de sa mort, Freud lisait La peau de chagrin de Balzac. Et elle dit, en choisissant de lire ce livre à la veille de sa mort, Freud se confrontait certes à l'image de son corps décomposé et de son agonie par inanition, mais avant toute chose, il déroulait sous ses yeux l'histoire d'une vie mauvaise qui aurait pu être la sienne s'il n'avait pas survécu à son combat contre lui-même. Je dirais, c'est absolument effarant. Elle parle du masochisme et du culte de l'abstinence sexuelle de Freud, mais comme il continuait à fumer, malgré des années de travail sur lui-même, il était toujours aussi névrosé. Elle fait de la psychanalyse une thérapeutique de l'aveu. Et du coup, L'avenir d'une illusion est un mauvais livre, puisque la psychanalyse est similaire à la confession. On peut lire des choses aussi stupéfiantes que Freud choisit l'abstinence, les drogues, l'exaltation romantique et la sublimation, ce qui le conduisit à devenir un excellent épistolier. Je pourrais vraiment multiplier les exemples parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais la métapsychologie. Son ambition métapsychologie était pour le moins obscure et défaillante. Et d'ailleurs, elle n'aura jamais d'autre utilité que de servir de rempart à quelques entreprises de psychologisation de la psychanalyse, maigre consolation. La métapsychologie. Et surtout, au fond, le portrait qu'elle dresse de Freud, c'est quoi ? C'est l'opposition par laquelle elle est toujours fascinée. Au fond, Elisabeth Roudinskos, elle aime le symbolique. Elle aime les oppositions symboliques, par-dessus tout. Donc, il faut qu'il y ait le blanc et le noir. Donc, Freud, homme de science, fasciné par l'occultisme. Ça, c'est la lecture qu'elle en donne. C'est l'inconscient monde du chaos et des titans. Toute idée de loi de l'inconscient est évacuée, toute lecture lacanienne de Freud est rendue impossible. D'ailleurs, Lacan, trois notes en bas de page et un demi-paragraphe au moment du congrès de Marianne Bad que vous évoquiez tout à l'heure. Et une espèce de je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une série télévisée qui s'appelle Penny Dreadful. C'est une série télévisée gothique. Et ben voilà, c'est un Freud gothique. C'est le romantisme noir et les lumières sombres. Quand Lacan parle de l'occultisme chez Freud, il dit « il s'y est intéressé, mais il a toujours pris le plus grand soin de dire que ça n'avait rien à voir avec la psychanalyse et que la psychanalyse, c'était autre chose. » Voilà.
On voit un fil rouge, tu pointes un Freud du côté de l'occulte, il y a une lecture de Lacan qui est le mysticisme de l'époque borroméenne. Donc tu évoques le combat des Lumières à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a un rabattage du côté de l'indicible, du paranormal, de l'au-delà de la parole.
Et... Faust, le diable, Méphisto, ils adorent, tous les deux, ils adorent le diable, ils adorent Méphisto. On retrouve des choses très très communes. Tous les deux, ils se piquaient d'être ignorés alors qu'en réalité, ils avaient un grand succès. Freud, ce serait... qui adorait l'idée qu'il était persécuté, se serait plaint que l'interprétation des rêves n'aurait aucun succès, alors qu'il en a vendu 75 exemplaires par an pendant 8 ans, ce qui témoigne quand même d'un succès majeur. Voilà. Elle plaque quelque chose. Elle prend des petites grilles d'interprétation et elle les applique et tout est interprété à cette lumière-là.
Alors comment vous avez tiré votre fil ? Quand vous avez voulu prendre cette masse de choses, comment, finalement, c'est en déroulant, comment vous avez établi cette table des matières ?
En fait, moi, j'ai travaillé de la façon suivante.
Voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça.
Eh bien, c'est très simple. Quand j'ai commencé à lire le Lacan, j'ai pris un cahier et j'ai...
On va tous faire pareil demain, j'ai... expliquez-nous bien.
J'ai pris un cahier et au fur et à mesure... où il y avait un thème qui me paraissait intéressant, je faisais une subdivision dans le cahier et je notais les pages et les citations correspondantes. Et donc, je me suis retrouvée au bout du compte avec 20 thèmes que j'ai... Certains faisaient 4 pages. Parfois, il a fallu que je colle des pages supplémentaires parce que c'était très long. Et donc, tout ce qui me choquait, me surprenait, me paraissait inexact ou incongru ou absurde ou passait complètement à côté, je le notais. Et donc, voilà.
Petit à petit, ça s'est construit comme ça.
Et ça s'est construit petit à petit comme ça, parce que finalement, j'ai retenu, pour en tout cas cette dernière partie à laquelle vous faisiez référence, j'ai retenu la série des points où elle me paraissait être vraiment passée à côté et avoir raté l'essentiel de qui était l'homme et l'essentiel de son œuvre. L'essentiel de son enseignement, où elle avait manifestement rien pigé. Voilà. Mais j'avais des petits signets, des petits machins, et pouf, pouf.
Et donc c'est un travail de 3-4 ans.
Oui,
c'est ça. Hein.
Oui, je me suis interrompue quelques mois à un certain moment, mais oui, c'est un
non, parce que vous avez, là, évidemment, on parle comme ça, mais ça, je ne sais pas si ça s'entend, mais les lecteurs verront, vous avez soulevé en même temps une montagne de références, vous êtes allé chaque fois vérifier dans des sources extrêmement précises. C'est un très très gros travail que vous avez fourni.
Oui, j'ai beaucoup travaillé.
J'ai pas, parce que les notes reprennent à chaque chapitre. Donc, je n'ai pas totalisé
beaucoup de notes. Il y a 900 notes, je crois.
Ah, c'est ça, j'allais dire, on doit pas être loin de 1000.
Oui, il y a 900 notes. C'est pour ça qu'on a décidé de les diviser. Oui. Oui. Non, c'est... Mais disons que je me suis... je me suis prise au jeu. Et tout d'un coup, ça... D'une certaine manière, ce que je disais tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire que, a priori, moi, j'avais du respect pour le travail de cette femme. J'avais jamais lu ce qu'elle écrivait, mais j'avais l'idée que c'était quelqu'un de sérieux, de fiable, qui défendait la psychanalyse. Mais au fond, ce qu'on voit avec son Lacan et avec ça, c'est que c'est un peu la stratégie du pompier incendiaire. Finalement, avec un Freud comme celui-là, prenons un exemple. Quand elle vient dire « La vie sexuelle de Freud n'a duré que 9 ans », au fond, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à montrer, et elle le dit très bien, que les reproches qui ont été faits à Freud d'avoir eu une sexualité aberrante sont délirants. Et pour le démontrer, elle prend le biais de dire ben, « c'est pas possible puisqu'il n'avait pas de vie sexuelle, il avait le culte de l'abstinence. Il n'était pas du tout pervers, il était un névrosé de l'abstinence. » Donc, je veux dire, comment est-ce qu'elle... Alors, du coup, elle peut dire il n'a pas eu d'aventure,
de liaison avec sa belle-sœur.
Bon, avec sa belle-sœur. Mais Lacan, il en parle de la liaison avec la belle-sœur. Où il dit d'ailleurs que c'est parfaitement possible, mais que ça n'a aucun intérêt et qu'on s'en tamponne. Bon, effectivement, on s'en fout. Simplement... Elle dit, ah mais ça n'est pas prouvé par les textes, comme si on pouvait prouver un fait négatif, ça, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, mais de toute façon, ce n'est pas possible puisqu'il avait renoncé à toute vie sexuelle. Mais, je veux dire, qu'est-ce que...
Mais c'est ça ce qu'elle appelle défendre Freud.
Voilà, et c'est ce qu'elle a, exactement. Mais comment est-ce que... prenons mon propre exemple. Qu'est-ce que mes papiers... Qu'est-ce que mes archives personnelles diront à un biographe éventuel de ma vie sexuelle? Rien du tout.
Mais il va falloir
C'est complètement aberrant. Je veux dire, et puis, de toute façon, Voilà, mais alors, évidemment, comme Freud est supposé être le théoricien de la sexualité, ça le dévalorise.
Ça dévalorise sa théorie.
Ça dévalorise sa théorie. Et c'est comme ça que c'est la stratégie. Elle mine la psychanalyse au prétexte de la défendre. Et en réalité, elle tient à peu près le même discours sur beaucoup de points que Michel Onfray, Jacob van Riller et tous ces gens-là.
Oui.
Mais je suis sûre qu'elle est intimement persuadée qu'elle fait œuvre de salubrité et qu'elle est la seule à défendre vraiment la psychanalyse.
Et le vrai Freud, contre les
psychanalystes eux-mêmes.
Surtout ceux qui ont été analysés.
Voilà. Donc...
J'ai aussi beaucoup aimé votre précision que vous lui apportez sur plutôt que l'homme avide de richesse et de gloire. Alors, vous avez deux, trois pages extraordinaires sur, mais enfin, pourquoi dites-vous qu'il est avide de gloire, Lacan ? Puisqu'il a refusé ceci, refusé cela, jamais demandé ceci, jamais demandé cela, n'a jamais été titulaire de quoi que ce soit, dites-vous, à part un pauvre doctorant en médecine. Et une spécialité de psychiatrie. Et vous lui dites, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas plutôt voir du côté de l'homme du XVIIe siècle ? Et j'ai trouvé que c'était vraiment une façon de lui répondre. Je ne sais pas si elle peut entendre ça, mais même d'orienter ses lectures, peut-être, pour lui donner un petit peu quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce que le courage, parce qu'en même temps, elle fait glisser tout ça du côté, effectivement, d'une veulerie. C'est ça qui est grave. Il y a de la veulerie dans tout ça. Et tout le monde est servile, tout le monde servile aux idéaux du temps. Tout le monde courbe la tête, courbe les chines, court pour 3 francs n'importe où, est prêt à raconter n'importe quoi, est prêt à signer n'importe quel papier. Enfin, c'est vraiment une façon d'entrevoir l'humanité qui est très spéciale. Très spéciale. Elle a en même temps un très très profond mépris probablement de tout ce qui peut être l'expérience humaine. Alors ça repose la question aussi de... Elle se dit, elle joue toujours beaucoup de cette ambiguïté sur historienne ou psychanalyste. Et évidemment, c'est aussi ni-ni. C'est-à-dire, si vous voulez l'attraper du côté d'historienne, elle va vous dire... Je suis surtout intéressée à ça en tant que la psychanalyse est quand même... Et si vous dites, mais enfin, en tant que psychanalyste, ça ne tient pas debout vos théories, etc. Mais là, je fais quand même surtout de l'histoire.
C'est ça. Par exemple, un point de détail, puisque Carole, vous évoquiez les qualités pédagogiques du livre sur l'histoire, sur le statut
sur
de la vérité
aussi,
en psychanalyse, sur l'énonciation. Un tout petit point qui est, c'est formidable de le préciser, son obsession avec ce geste de Lacan qui a consisté à ne pas rendre ses manuscrits à Aimé. Bon, eh bien, Nathalie Jodelle explique qu'il arrive, il est possible pour un analyste, et que c'est même salutaire que dans l'accompagnement d'un sujet psychotique, on se fait confier un objet et qu'on soustrait, parce qu'il a un pouvoir de persécution, de jouissance, et qu'on soulage un sujet à prendre cet objet. Bon, eh bien ça, tu l'expliques très très bien. Et avec Elisabeth Rodesco, ça devient, c'est un voleur, explicitement. Et c'est plusieurs fois. Il y a comme ça, il ne rend pas, c'est du vol, enfin le Molière.
Tout à fait.
Et là, tu rétablis analytiquement les raisons. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est un déni de rationalité, les raisons qui justifient aussi tel et tel acte.
Il y a un autre exemple de cet ordre-là. Je te remercie d'avoir cité celui-là, parce que c'est vrai que ça me semblait vraiment important, cette histoire des manuscrits d'Aimé, que Aimé elle-même n'a jamais réclamé, en tout cas, on n'en a aucune preuve. C'est Elisabeth Rodesco qui les a réclamés et qui ensuite a convaincu Didier Anzieux de les réclamer. Mais il y a une anecdote que je trouve est aussi très éclairante de ce point de vue-là. Parce qu'elle montre un aspect de l'homme qui me semble très... très, très intéressant, et je ne l'ai pas évoqué dans le livre. Quand Lacan faisait son séminaire, il y avait une sténotypiste C'était donc une dame qui utilisait une machine que moi j'ai connue dans les temps, parce que la secrétaire de mon père en avait une. C'était une espèce de bizarre machine à écrire sur laquelle on appuyait et ça faisait des espèces de petits traits bleus et des points, un genre de morse, quoi. Bon, voilà. Et à partir de ça, on décryptait la bande et on pouvait transcrire le séminaire. Cette sténotypiste s'appelait Maria Pirakos et elle a écrit un bouquin très méchant qui s'appelle « La tapeuse de Lacan ». Ceci dit, il se trouve quand même qu'elle est devenue psychanalyste après avoir été la sténotypiste de Lacan, donc ça a quand même dû avoir un peu d'effet sur elle. Mais surtout, elle raconte l'anecdote suivante. Elle dit que elle était très maltraitée, que Lacan l'ignorait, qu'il ne s'occupait absolument pas d'elle, qu'il lui parlait très mal, qu'il n'en avait rien à fiche, etc. Et au soutien de ces affirmations, elle raconte l'anecdote suivante. Un jour, à la sortie du séminaire, elle présente à Lacan son mari. Le mari s'approche et dit à Lacan « Je suis le mari de madame ». Et Lacan a tourné les talons. Et Marie Pirakos interprète ça comme « Vous voyez quel mépris Lacan avait pour le peuple, pour sa sténotypiste, pour mon mari. Il a refusé de lui serrer la main parce qu'il le considérait comme un moins que rien. » Mais ce que nous, on entend dans cette phrase-là, c'est que l'homme qui se présente en disant « je suis le mari de madame », il s'annule lui-même, il disparaît. Il n'est plus que le mari de madame. Et c'est que c'est ça que Lacan a voulu lui faire entendre sans doute en tournant les talons, en refusant d'accepter la façon dont cet homme se présentait. Voilà, donc... ça c'est pour montrer que dans chaque anecdote finalement on peut la tirer d'un côté et on peut la tirer de l'autre et que le choix d'Elisabeth Rodinesco c'est toujours de la tirer du côté qui ravale, qui dégrade, qui montre les petits côtés, voilà. Et alors ce que je voulais dire aussi par rapport aux lectures, c'est que j'ai lu au cours de tout ce trajet là, cette aventure, ce voyage, un certain nombre de livres qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et parmi ceux-là, « Morale du grand siècle » de Bénichou a été vraiment une rencontre exceptionnelle. Et tout d'un coup, en lisant ce livre, je me suis dit « mais le voilà Lacan ».
Il est dans la bibliographie c'est l'homme d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est l'homme noble du XVIIe siècle. Et elle passe.
Et c'est vrai que Lacan accorde une grande place, au moins à un moment de son enseignement, à la honte et à l'honneur.
Oui, absolument.
Et à la fin du séminaire 17, notamment, il y a cette très belle page. Et qu'à cet égard, elle ne comprend pas l'homme d'honneur.
Non.
Et elle est sans vergogne.
Absolument.
C'est une catégorie qui n'appartient pas à son univers, et elle ne saisit absolument pas qui elle rencontre de ce point de vue, ni son intransigeance, ni qui allait, pour lui semble-t-il, avec l'objet dont il traitait. Mm-hmm. Puisque l'objet lui, auquel il pense avoir consacré sa vie, c'est la pratique analytique et la théorisation de cette pratique, dont il pensait qu'elle pouvait s'émousser, disparaître, etc., et qu'il fallait constamment beaucoup travailler pour en garder le tranchant. Mais que ce tranchant, ce n'est pas à coup de compromis qu'il se maintient. Et ce n'est pas à coup de politesse, ce n'est pas à coup de sourire à la dame non plus. Enfin, tout ça ne tient pas. Et on nous présente une version où il s'agirait, par des semblants, par des titres universitaires, par des faire consister quelque chose... dont on nous montre en même temps qu'il ne consiste pas.
Enfin, écoutez, quand même, ce gars qui vient à la télévision dire « je ne parle pas pour que des idiots me comprennent », je veux dire, c'est une espèce de culot incroyable, quoi.
C'est la même chose. Aujourd'hui, par exemple, qui oserait parler comme ça à la télévision? Mais quelle télévision le passerait, surtout?
Mais il a dû se bagarrer, hein. Oui. Il a dû se bagarrer pour que ça passe. Oui. Parce qu'il s'en fichait, il voulait. Mais à partir du moment où on lui a dit si, il faut le faire et ça va passer à une heure de grande écoute, à ce moment-là, il a plus cédé. C'est-à-dire, ah ben vous m'avez dit que ça allait passer une heure de grande écoute, maintenant tenez parole.
Vous allez voir ce que vous allez voir.
Il y avait Nietzsche. J'ai mis des barbelés autour de ma philosophie pour que les pourceaux n'y entrent point.
Philippe Lassagna.
Oui, j'étais très sensible en effet à ce que vous avez écrit, en particulier ce qui m'a beaucoup plu pour ma part, enfin, je pourrais faire court, mais c'est ce que vous disiez du style de Lacan, c'est-à-dire le malentendu de Roudinesco. Le style, c'est l'homme même, et Roudinesco qui évidemment oublie complètement l'ajout de Lacan, l'homme à qui il s'adresse. Et le fait est que Roudinesco, comme dit, c'est-à-dire que quand quelqu'un montre la lune avec l'index, elle voit l'index, elle ne voit pas la lune. Ça, c'est comme on dit. Et au fond, ce qui est dans sa diplopie, si on peut dire, qui fait qu'elle n'y voit pas, c'est quand même très lié à son maître fondamental, qui n'est pas du tout Lacan ni Freud, mais qui est Hélène Berger.
Mmh,
elle est l'élève, la représentante de l'œuvre d'Hélène Berger, et elle poursuit chaque fois qu'on l'interroge dessus, elle dit mais oui, je suis homme remarquable, historien de la psychanalyse. Et au fond, Hélène Berger, qu'est-ce qu'il dit de la psychanalyse ? Cité par Borges Jacobsen, parce qu'il faut quand même dire que Hélène Berger est un des grands inspirateurs du livre noir de la psychanalyse. Ce que dénie Roudinesco dit « Non mais attention, j'ai travaillé avec eux, mais ils ont beaucoup changé, n'allez pas me confondre avec, parce qu'elle a été proche de Borges Jacobsen et de gens comme ça. » Et donc Borges Jacobsen cite Hélène Berger. « La psychanalyse est-elle une science ?» Hélène Berger. « Elle ne répond pas à ses critères. Elle répond au trait d'une secte philosophique. » Organisation fermée, initiation hautement personnelle, doctrine changeante, mais définie par son adoption officielle, culte et légende du fondateur. Voilà. Donc ça, c'est la théorie d'Hélène Berger sur la psychanalyse. Et quelle est la théorie de Roudinesco quelques années plus tard, donc ça, ça de 63, je crois, interrogé par critique communiste, puisqu'au fond, ça fait partie de sa formation.
Absolument.
Où on sait d'ailleurs quel sort on fait à la vérité, mais enfin, je ne veux pas faire de... au départ, il y a un maître, dit-elle, un fondateur dont la parole est parfois subversive par rapport à la tradition, puis on s'enferme dans la répétition talmudique, etc., etc. C'est-à-dire, c'est son hypothèse sur Freud et c'est son hypothèse sur Lacan, parce que là, elle parle de Freud. Mais on entend la même chose chez Lacan, et au fond... Quand elle dit qu'elle se fait historienne, c'est au nom d'Hélène Berger. Et quand elle se dit « je fais partie de l'école des annales », c'est parce qu'Hélène Berger a vaguement croisé les gens de l'école des annales. Mais on ne le situe pas vraiment comme un historien. C'est Hélène Berger, c'est avant tout un historien de la psychiatrie, mais en tant que psychiatre. C'est pas un historien en tant qu'historien, reconnu par... Et par contre, il a été analysé quand même, Hélène Berger, par Oscar Pfister. C'est-à-dire par le pasteur,
oui.
Puisqu'il était lui-même protestant, par le pasteur de service. Et donc on voit la religion, et il est lui-même inspiré beaucoup par Charles Blondel. C'est-à-dire la psychologie et la psychopathologie française d'orientation franchement catholique. Et on voit ce courant-là, qui est celui d'Hélène Berger, qui est quand même un courant profondément religieux, dirait-on, qui, quelque part, se faufile par la voix de Roudinesco. Ça fait partie des ironies de l'histoire. Et qui, vraiment, après, va voir peut-être du catholicisme partout. Je sais pas. Voilà, c'est une remarque.
Mais elle est d'autant plus fondée que... Elle a la passion du nom du père, Elisabeth Roudinesco. Elle ne s'intéresse qu'aux généalogies, aux transmissions, aux filiations, à l'héritage, etc. Je veux dire, cette conception de l'histoire des idées où chaque penseur engendre le suivant, etc., c'est aussi une des raisons qui l'a fait passer à côté et de Freud et de Lacan, parce qu'elle ne peut pas aborder la question de la rupture épistémologique. Elle n'est pas du tout du côté de Thomas Kuhn, par exemple. Et elle laisse tomber Lacan quand il abandonne le nom du père. Quand il pluralise les noms du père, pour elle, ça devient du délire. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, absolument.
Nathalie Jodel, nous te remercions.
Merci à toi.
Nous remercions la librairie Mola.